Je vous invite à prendre vos Bibles et aller dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc, chapitre 8. On vient de terminer une série dans le livre de Job et j'aimerais vous amener dans une marche autour de la mer de Galilée ce matin. Dans ma lecture personnelle, j'étais en train de lire dans Marc il y a quelques semaines et j'ai été touché par ce texte que nous allons lire ce matin. Et j'ai décidé de le partager avant d'avoir un sermon dans deux semaines sur le thème de Noël. Je voulais vous amener dans les évangiles et dans cette marche autour de la mer de Galilée. Vous savez, si on va en Israël, un des endroits incontournables qu'il faut aller, c'est se promener en Galilée. Parce qu'évidemment, autour du lac de la Galilée, c'est pas juste la mer de Galilée, mais c'est aussi les villages tout autour qui sont vraiment importants dans la vie de Jésus. Que ce soit Capharnaüm, que ce soit Nazareth un peu au loin, le mont Tabor, un peu en dessous, la vallée de Megiddo, de Jisréel, des endroits importants dans l'histoire d'Israël, mais dans lesquels Jésus va beaucoup passer de temps autour de la mer de Galilée. Et évidemment, pour moi, quand j'arrive à quelque part, c'est toujours les plans d'eau qui m'attirent, parce que je suis un sauveteur de métier, j'aime nager dans les lacs. Alors évidemment, pendant que certains de mes collègues, quand j'étais en Galilée, étaient en train de manger un poisson Saint-Pierre à 18 $ US, je préférais aller sur le bord de la mer de Galilée et aller nager avec mon petit frère Jean-Philippe. Parce qu'il y avait une mer à côté. Comment est-ce que tu veux manger un poisson Saint-Pierre quand que moi je vais aller dans la mer où est-ce que ce poisson est sorti, où est-ce qu'il s'est passé tellement de choses en Israël, dans la vie de Jésus autour de cette mer de Galilée. Bon, elle n'est pas super propre, elle ne vaut pas une gorgée, je ne garantis pas que tu vas rester en santé. Il y avait bien de la cochonnerie sur le bord de l'eau, mais au-delà de tout ça, on est allé se baigner. Parce que c'est un lieu tellement important, Jésus s'y est promené d'un bord à l'autre. Si vous lisez l'Évangile selon Marc, on a l'impression que Jésus passe la moitié de sa vie sur une barque. Hein, il partage l'Évangile d'un côté, il embarque puis là dans la barque pour un peu s'éloigner, pour enseigner le monde sur le bord de l'eau, pour que ça fasse un écho parce qu'il y a tellement de monde. C'est plus simple pour lui de voyager avec une barque parce que les gens le suivent partout, il n'y a pas de break. Mais au moins sur la mer, il peut se retrouver tout seul avec ses disciples, à un moment de répit, de prendre un petit lunch en traversant vers de l'autre côté ou vers un autre rive à quelques kilomètres, plutôt que de marcher. Il était capable de marcher Jésus, hein, il était en forme, mais ce n'était pas ça l'idée, il ne pouvait pas se retrouver tout seul. Et là, sur la mer, il pouvait se retrouver tout seul avec ses disciples, leur enseigner, un moment de répit de la foule qui était souvent envahissante. Et dans Marc, c'est particulier parce qu'il est continuellement, on nous le décrit cet aspect-là, de comment il se promène continuellement en barque, il débarque, il enseigne là, il y a quelque chose qui se passe, il reprend la barque, il s'éloigne, ça lui donne un break, ce temps-là, et un temps d'enseignement et un temps de tranquillité. Parce que c'était intense. En même temps, la mer de Galilée, c'est aussi l'endroit où ce n'est pas toujours reposant d'être sur la mer de Galilée. Parce qu'il y a eu des tempêtes aussi, n'est-ce pas? Il y a des tempêtes dans lesquelles, parfois, Jésus est allé les rejoindre en marchant sur les eaux pour les rejoindre. Une autre occasion où la tempête et que Jésus va arrêter la tempête. Et même quand il a marché sur les eaux, au moment qu'il a mis les pieds dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Il est juste à mettre les pieds. Et là, Jésus est avec eux et la tempête s'est arrêtée. La mer de Galilée est aussi un endroit où il y a eu des tempêtes et des leçons de foi hyper importantes sur la mer de Galilée. Et pour ceux qui en doutent, j'ai moi-même été en bateau. C'est une chose que tu veux faire quand tu vas en Galilée, c'est tu vas embarquer sur le Jesus Boat et là te promener, voir de sur le bateau, de voir aussi les montagnes, la décoration. Une expérience extraordinaire. C'est un lieu tellement beau et qui, pour nous chrétiens qui lisons les évangiles, rappelle tellement d'histoires importantes. Et j'aimerais vous raconter ce matin et vous amener dans un texte d'une des histoires importantes dans les évangiles, alors qu'on se promène autour de la mer de Galilée et qu'il y a tellement de choses à apprendre avec Jésus. Et cette histoire, je la lisais il y a quelques semaines dans ma lecture personnelle et elle m'a frappé à nouveau. Et j'aimerais vous lire ces quelques versets au chapitre 8 de Marc, avant de regarder un peu plus loin cette histoire. Et je vous lis ici à partir de ma Bible avec la version Tob. En ce jour-là, comme il y avait à nouveau une grande foule, et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appelle ses disciples et leur dit, « J'ai pitié. » Où j'ai compassion de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi. Et ils n'ont pas de quoi manger. Puis s'ils ont amené de quoi, ben au bout de la première journée, ça devait être fini. 3 jours à écouter Jésus. On comprend ici que c'est une foule qui a soif. Qui a soif du pain de vie, qui a soif de l'eau de vie de Jésus, qui a faim de lui et qui reste là. Et on va apprendre ici qu'il est sur le côté de la mer où ce que c'est pas une foule juive, c'est une foule d'hommes et de femmes des nations païennes qui sont là. Contrairement à l'autre situation, où Jésus a fait la multiplication des pains. 3 jours. Et là, on lit, « Si je les renvoie chez eux, ils vont défaillir en chemin. Il y en a qui sont venus de loin en plus. » Ses disciples lui répondirent, « Où trouver de quoi les rassasier de pain ici dans un désert? » Donc, ils étaient éloignés des villes, éloignés du bord de l'eau, éloignés de magasins ou de villages auprès duquel ils pouvaient évidemment acheter dans un petit dépanneur du coin quelque chose. Il leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » « 7 » dirent-ils. Il ordonna à la foule de s'étendre par terre. Puis il prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit. On a l'impression ici de prendre le repas du Seigneur, hein? Parce que c'est le même langage qu'on va retrouver au chapitre 14, versets 23 et 22 et 23. Même langage utilisé ici. Après avoir rendu grâce, il rompit le pain et les donna aux disciples pour qu'ils les offrent. Et ils les offrirent à la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons. Jésus prononça sur eux la bénédiction. Chose qu'on retrouve aussi au repas du Seigneur également, le même mot. Et dit de les offrir également. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux qui restaient 7 corbeilles. Ah, il y avait encore 4 000 ici. Il y avait environ 4 000. Puis Jésus les renvoya. Et aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. On va prier le Seigneur. Ô Père Céleste, parle-nous ce matin. Ô toi, pain de vie. Source d'eau vive. Enseigne-nous ce matin ce que tu voulais enseigner à tes disciples cette journée-là, Seigneur. Ce que tu voulais enseigner à cette foule sur toi. Ô Père Céleste, enseigne-nous sur ton Fils ce matin par ta parole. Garde nos cœurs attentifs, aide-nous à comprendre. Et nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Évidemment, vous êtes pour la plupart des lecteurs habitués des Saintes Écritures et vous avez lu ce fameux récit de Jésus qui multiplie les pains et qui nourrit la foule. Ce n'est pas votre première fois. Des fois, ce qui nous échappe, c'est de savoir combien est important cette histoire de la multiplication des pains. Vous savez, on est ici à la deuxième multiplication. Elle se retrouve ici et dans Matthieu, dans Marc et Matthieu. Mais la première multiplication des pains fait partie des rares miracles qui est relaté dans chacune des 4 évangiles. Les 4 évangiles racontent cette première multiplication des pains à une foule de 5 000 personnes. Et en plus, Jésus refait le même miracle avec des variantes. On voit que ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas dans le même endroit, ce n'est pas la même foule, c'est un peu plus tard. Et il y a des leçons qu'il veut ajouter ici. Et on voit que ce n'est pas la même quantité de personnes exactement. On voit aussi qu'un a 5 pains, l'autre a 7 pains. Il y a des petites variantes, 2 poissons, des poissons. On voit des choses distinctes qui montrent que ce n'est pas juste une histoire racontée une deuxième fois pour le fun. Mais on a aussi un doublon d'un miracle important. Et pour les Juifs, quand Jésus, vous savez, dit des fois « Amen, Amen, en vérité, je vous le dis. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jésus? C'est une manière hébraïque de porter attention par la répétition, pour mettre l'emphase sur quelque chose. Écoutez bien là, « Amen, Amen, en vérité, là, on capte l'attention pour dire, il va dire quelque chose d'important, Jésus, quand il dit « en vérité ». Et c'est la manière hébraïsante d'attirer l'attention par la répétition. Et dans les évangiles, contrairement à d'autres miracles, celui de la multiplication des pains est incroyable, est immense. Et elles n'ont pas à vouloir comparer quelle est plus importante, mais en plus, dans Jean, il colle un sermon sur Jésus qui est le pain de vie à cette histoire, dans Jean 6. pour montrer qu'il y a eu à cette occasion-là un enseignement lié aussi et que Jésus veut parler de son identité comme pain de vie, que Jean nous raconte en détail son sermon. Et là, cette deuxième multiplication maintenant, mais là devant une autre foule, Jésus veut enseigner quelque chose d'important sur lui, son identité, sur son pouvoir, sur sa capacité de nous combler. Et donc, on doit y porter attention. Et c'est là qu'on est ici, dans cette deuxième multiplication des pains. Et peut-être pour vous aider ici à apprécier, j'ai mis une petite carte ici qui raconte justement dans les deux chapitres précédents le parcours de Jésus, qui après avoir passé un certain temps avec ses disciples en Galilée, est allé jusque dans le pays voisin, en fait le Liban actuel. Jésus s'est promené au Liban actuel pour y apporter à Tyr, à Sidon, l'Évangile. Il va faire des miracles et montre que son intérêt, après avoir vu la dureté du peuple d'Israël, se tourne aussi vers les païens. Jésus n'est pas juste venu pour les Juifs. Il est venu en premier vers les siens. Mais Jésus a une mission beaucoup plus large. Jésus amène maintenant aussi cette transition à dire, on s'intéresse et on veut, on veut ramener une vérité qui est dans l'Ancien Testament, mais qui est souvent négligée. Jésus, Dieu Tout-Puissant, est intéressé aux nations. Pas juste à Israël. Et donc, il s'est promené dans cette région, dans les chapitres précédents, et là, il vient de redescendre, il s'est promené d'un bord puis de l'autre. Vous vous rappellerez peut-être dans le chapitre 5, dans cette région ici, païenne, où ce qu'il y a, on appelle la Décapole, c'est l'endroit où il y avait 10 villes hellénisantes, donc grecques, de culture grecque qui était là. Et c'est aussi l'endroit traditionnel où on considère que les tribus qu'ils ont battues, les Cananéens, les 7 tribus, ce qui restait, se sont ramassés beaucoup là. Et on identifie les 7 nations comme étant dans la région de la Décapole. Et donc, Jésus fait son miracle dans cette région ici, après avoir passé du temps à aller là, il revient ici. Vous vous rappellerez au chapitre 5 que c'est là qu'il a fait le miracle de l'homme de Gadara, hein? Cet homme possédé du démon, finalement, deux, et qui rien ne pouvait le tenir. Et là, le démon qui va dans les cochons, qui se jettent dans la mer. Puis là, les gens voient ça, ils sont troublés, ils sont frustrés. Et Jésus part. Mais lui, il va raconter son miracle. Et ce n'est pas le seul. Et donc, quand Jésus revient, il y a une foule qui l'attend parce qu'il y a eu des miracles qui sont passés là. Il y a des gens à qui Jésus a dit, non, parle-en pas. Et finalement, il ne pouvait pas, il en parlait. Et là, il y a une soif. Il y a un désir de connaître ce Jésus, de l'écouter. Alors que le miracle où ce que Jésus va faire la foule de 5000, la multiplication va se passer plutôt dans cette région-ci, nord-ouest de la Galilée, tout proche. Souvent, on met les deux, le mont des Béatitudes, où ce que le sermon sur la montagne, puis l'endroit où ce que la multiplication des pains, comme à peu près dans la même région. Et donc, autour de cette Galilée se passent des miracles incroyables et Jésus se promène d'un bord puis de l'autre. Et là, ici, la deuxième multiplication pour vous aider à vous situer. Donc, quelques variantes aussi dans cette multiplication qui montrent qu'on n'est pas dans le même récit qui nous est juste raconté pour le fun. C'est vraiment un autre endroit, une autre expérience d'expérimenter Jésus. Et ce matin, ma déclaration, c'est que Jésus seul peut te satisfaire. Vous savez, les gens se lancent parfois toute leur vie. Je me souviens encore du témoignage de Danielle Griffin. Je ne la vois pas dans la salle, mais elle est probablement à la maison et je la salue. Je me rappelle encore de son témoignage, il y a environ une vingaine d'années. Danielle qui cherchait à combler un vide dans sa vie, qui s'était lancée dans le New Age et toutes sortes de recherches d'un bord puis de l'autre et qui là, du haut de ses 64 ans, il y a une vingaine d'années, nous donnait son témoignage après cette longue quête-là d'avoir enfin trouvé ce que son cœur cherchait à être satisfait, c'était Jésus. Et autour de nous, les gens cherchent à trouver cette satisfaction, à toucher à toutes sortes d'expériences, à assister à toutes sortes de conférences, à écouter toutes sortes d'informations sur YouTube pour chercher la vérité sur des questions litigieuses. Et là, c'est comme un trou sans fond à toujours chercher une quête de connaissance, une quête de sens, une quête de trouver ma destinée, des réponses à mes questions. On est en décembre. C'est le moment où ce que on se rappelle la naissance de Jésus et se rappeler que seulement Jésus peut te satisfaire. Que tu aies cru en lui déjà ou pas, seul Jésus peut te satisfaire. Que tu aies cru en lui et que finalement tu as des problèmes que tu vis, des épreuves comme Job, seul Jésus peut te satisfaire. C'est ce qu'on va regarder ce matin. Et la première chose que j'aimerais qu'on remarque dans ce récit, c'est que tout ce miracle commence avec une vérité tellement simple et importante. Ce miracle est un débordement de la compassion de Jésus. Jésus a vu la foule, il a vu leur détresse et il a eu un élan de compassion. Et la manière hébraïque d'en parler, c'est pour nous dire que ça vient du ventre. Il a eu un sentiment de tendresse. Il s'agit d'abord d'une émotion physique, d'une authentique compassion devant l'état misérable du prochain. Littéralement, un mouvement des entrailles suscité par la vue de ce que Jésus voit comme détresse devant lui. Cette nuance est insolite dans les Grecs profanes, mais prédominante dans la Bible, concernant parfois des hommes, mais surtout Dieu et sa compassion à travers Jésus pour les êtres vivants. Et c'est ce qui va souvent être le préliminaire à un miracle. Quand on lit tout à coup dans les Évangiles et Jésus eut compassion, on se dit, OK, il va faire quelque chose, Jésus. Quand il a vu cette femme qui sortait d'un village et d'un paquet de monde qui la suivait, et lui, il savait que cette femme-là est une veuve, puis en plus, c'est son seul fils, on se dit, il fut ému de compassion. C'était pas dans son agenda le matin en se levant. Bon, OK, Seigneur, c'est quoi l'agenda encore aujourd'hui, là, à Père Céleste? Oui, tu vas passer par tel village. Puis là, c'est là que tu vas stratégiquement là, faire un miracle dans le but que. OK, OK, good, là, Père, je partais, là. C'était pas comme ça. On sent que beaucoup des choses dans lesquelles le Père amène Jésus vont être un montement spontané et un déploiement tout simplement de la compassion de Jésus qui est terrestrement l'image de la compassion du Père céleste, parce qu'il est le caractère de Dieu, n'est-ce pas? Et Jésus va démontrer spontanément ses besoins et y répondre par simple compassion dans laquelle il va exprimer son amour, sa sensibilité pour les gens et aussi permettre un miracle dans leur vie pour leur parler de son identité, de ce qu'il veut faire avec leur cœur, pas juste avec leur corps, n'est-ce pas? Parce que, rappelons-le, malgré que le Seigneur a nourri des peuples, des foules, malgré qu'il a fait aussi des miracles pour leur donner la vue, etc., que certains même il a ressuscité, j'aimerais juste vous rappeler, ils sont tous morts, quand même. Et que Jésus, c'était pas ça ultimement qu'il voulait qu'ils vivent une pleine satisfaction. C'était d'être renoué dans leur relation avec le Père céleste. C'était de vivre le pardon de leurs péchés, de pouvoir être adopté par le Père céleste et d'avoir la vie éternelle avec Dieu Tout-Puissant. Bien au-delà que ces petites choses-là pour préparer, mais le Seigneur Jésus a compassion. Il connaît nos faiblesses, connaît nos luttes, connaît notre fragilité humaine, connaît nos souffrances. Et quand il le voit, il n'est pas indifférent. Et il agit. Et ici, il va déployer son amour, sa compassion viscérale, littéralement ici, pour exprimer son sentiment qu'il a dans les tripes pour cette foule qui le cherche, qui ont soif, qui ont faim. Et devant ça, il dit, ben, OK, on va les nourrir. Ils ont besoin. Et ici, comprenons bien ici que contrairement au premier miracle, où ce qu'il se pose la question, ben, OK, on peut-tu envoyer du monde? On a-tu assez d'argent pour pourvoir puis aller chercher de la nourriture ailleurs, à quelque part, pas loin? Ici, c'est pas possible, ils sont isolés. Et ils sont avec lui depuis 3 jours, donc une plus grande vulnérabilité physique également. Au niveau de même, voyager après ça pour se rendre dans les villages qui sont peut-être à 10 kilomètres, peut-être à 15 kilomètres. Et dans lequel ils ont une fragilité de ne pas avoir mangé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'écouter Jésus. Vous avez vécu des moments comme ça où ce que le temps s'arrête? Parce que là, vous êtes dans le moment présent. Dans un temps avec le Seigneur, ou dans un temps de quelque chose que le Seigneur vous comble, puis vous ne voyez pas le temps passer. Tellement que ce moment-là est spécial. Et ces gens-là étaient préoccupés à écouter et connaître Jésus. Il était fascinant. Et ça avait mis de côté leur faim pour entendre Jésus. Et Jésus le voit, ça. Il voit la foule. Et il voit leurs besoins. On va les nourrir. Mais il ne va pas juste les nourrir. J'aimerais juste vous rappeler, avant de regarder le prochain point, cette vérité importante dans Jacques, chapitre 5, et verset 11. Écoutez bien attentivement, Jacques 5, 11. On dit ceci, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Littéralement, le Seigneur est nombreux d'entrailles. Il y a beaucoup de cœurs. Il y a beaucoup de tripes sensibles à nos besoins. Et Jésus est l'expression tout simplement du cœur de Dieu. Jésus nous montre comment le Père Céleste, He cares. Il a à cœur et se soucie de nous sincèrement. Et notez-le, il ne laissez jamais passer dans les évangiles ce verbe sans le souligner, sans y mettre un crayon jaune, sans le décorer le mot, il eut compassion. Parce que tout ce que Dieu a fait envers nous est un élan de sa compassion. C'est pas nous qui est allé vers lui, c'est lui qui vient vers nous. C'est lui qui voit notre détresse et nos besoins. C'est lui qui a la solution. C'est jamais nous vers lui, c'est lui vers nous. Et Jésus nous montre tout simplement, en illustration de son vivant, le cœur de Dieu, du Père Céleste, qu'il ne se fout jamais de vous et moi. Qu'aucune de nos prières de détresse, de souffrance, il n'y a jamais un autre chrétien qui me demande des affaires. Oh, sont-tu fatigants? Ah, un autre chialeux qui a des bobos. Il y en a un autre qui a des bobos là-bas aussi. Là, tu n'es pas tout seul. Là. Tu sais, ce genre d'attitude-là indifférent. Le Père Céleste, il ne l'a jamais. Vous et moi, on peut avoir cette attitude-là. Mais jamais le Père Céleste. Jamais Jésus. Jamais. Et je veux que vous rappeliez ceci. Le miracle de la multiplication commence avec le fait que Jésus avait compassion de cette foule. C'est là que tout commence. Et c'est là que notre propre salut en Jésus-Christ, de la part du Créateur, commence parce que le Créateur qui nous a créés, même lorsqu'on s'est rebellé contre lui, il a eu compassion de nous. Et il a construit un pont pour rendre possible notre conversion et notre retour à lui. Sans cette compassion-là, on est perdu, les amis. Il n'y en a pas de plan de sauvetage. Il n'y en a pas de patience. Il n'y a que du jugement. Est-ce que je peux entendre un merci Seigneur pour sa compassion ce matin? Apprécions ce matin et soyons dans la reconnaissance que notre Dieu est compatissant. Première chose que j'aimerais qu'on souligne ici. Deuxièmement, la question que Jésus pose à ses disciples. Jésus est désemparé, vous savez. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce monde-là? Jésus se pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Et là, il dit à ses disciples, combien avez-vous de pain? Il cherche une solution, Jésus. Il est un peu en train de paniquer. Fait que là, il demande à ses disciples, mais qu'est-ce qu'on a, gang? Écoute, il me faut une solution. C'est-tu pour ça que Jésus pose des questions? Non. Si vous m'écoutez depuis tantôt, vous dites, c'est quoi qu'il est en train de dire? J'espère que vous posez, c'est quoi qu'il est en train de dire? Jésus ne pose pas des questions parce qu'il n'y a pas de réponse. Pourquoi Jésus pose la question à ses disciples? Hein? Jésus pose toujours des questions à ses disciples dans un but pédagogique. Il a la réponse, mais il veut les faire réfléchir. Et il veut ici aussi qu'ils prennent conscience qu'il y a une impossibilité. Ces gens-là ne sont pas nourris depuis 3 jours. On est isolé, on est loin de tout. Et il faut trouver une solution. Il veut que les disciples réalisent qu'il n'y a pas de solution humaine, qu'ils sont au bout de leur corde de possibilité de régler le problème. Et c'est bon des moments isolés. C'est bon des moments isolés. J'ai entendu parler, et je lisais à propos d'une l'endroit, l'île la plus isolée du monde avec des habitants dessus. Ils sont, il y a 20 ans, en tout cas, ils étaient 288 habitants sur l'île de Tristan. Vous connaissez? Bon, moi non plus. Mais laissez-moi vous dire comment c'est isolé. L'île de Tristan à Kanha est célèbrement l'île la plus isolée du monde. Et elle se trouve à 1750 milles du continent le plus proche, qui est l'Afrique du Sud. Proche, évidemment, de l'hémisphère sud. Et ils sont 288, et c'est tellement petit et isolé, il n'y a pas de piste d'atterrissage non plus. Alors, si tu veux y aller, il faut que tu prévoies le voyage, c'est 7 jours en bateau. Fait que tu sais, quand tu veux te construire un chalet sur ce style-là, genre qu'il faut que tu sois vraiment motivé. Hein? Oui, j'ai un chalet sur l'île de Tristan. Si vous avez un autre chum qui vous dit ça, le dites-y, OK, c'est sûr que je ne vais pas là en vacances. C'est tellement loin qu'il faut qu'on prenne l'avion pour aller en Afrique du Sud. C'est un long voyage, les amis. Il faut passer par l'Europe. Et même en Europe, tu as encore 11-12 heures de voyage en avion pour te rendre en Afrique du Sud. Et de là, tu as 7 jours en bateau. Ce n'est pas un voyage qui est reposant. Et ça doit coûter très cher juste te rendre sur place. Mais vous savez, le Seigneur prend ces occasions où c'est tellement loin, c'est tellement isolé que là, tout à coup, il y a de la place pour lui. Et on a besoin des occasions. Et vous savez, on peut être isolé, être seul et être au bout de nos capacités beaucoup plus proche de chez nous. Surtout quand ça vient à des problèmes relationnels et qu'on est dépassé. Mais le Seigneur veut toujours prendre les opportunités difficiles, les moments de ton isolement, les moments où il y a du monde autour de toi, mais tu te sens seul. Les moments où il y a plein de gens autour de vous, mais tu n'arrives pas à trouver une solution ou une oreille attentive ou quelqu'un qui peut t'aider. Où est-ce que tu es entouré, mais tu n'en as pas de ressources pour régler ton problème. Et tout à coup, dans ton isolement, Jésus a de la place. Parce que Jésus, ici, pose des questions pour leur montrer qu'ils n'ont pas la capacité de le régler. Et là, tout à coup, qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas de capacité à régler un problème? Il y a de la place pour Jésus. Tout simplement. Et Jésus pose ces questions-là pour les faire réfléchir, les faire réaliser ici que ce que lui voit, leurs besoins, et qu'il va falloir faire quelque chose, et que Jésus va saisir l'opportunité ici pour prendre soin de ces gens qui ont soif et de ces gens qui ont faim de la parole de Dieu, mais qui ont aussi les besoins physiques à combler pour continuer à écouter, pour continuer à apprendre. Que faire avec cette foule? Le comment de Jésus ici se veut avant tout une question pour faire grandir la foi de ses disciples. Tout simplement. Une opportunité pédagogique. Confronté à nos limites peut devenir tout à coup une opportunité de foi. Une opportunité de laisser de la place. Parce que tant que je suis capable de m'arranger tout seul, je m'arrange tout seul. Tant que je suis capable d'attacher mes lacets, je ne demande pas à papa, maman, de l'aide pour attacher mes lacets. Je m'arrange toute seule, comme un grand, comme une grande. Mais quand je ne suis plus capable, puis j'ai essayé 10 fois que je braille sur mes souliers à 5 ans, parce que je n'arrive pas à les attacher, là, tout à coup, il y a de la place à « Tu peux-tu m'aider, s'il vous plaît? » Ah, peut-être on a braillé, on a crié, on a vargé à terre, puis on a tapé des pieds avant d'y arriver, parce qu'on a vraiment, on voulait y arriver toute seule. Et c'est ce qu'on est comme ça, ces petits-enfants qui essaient de régler nos affaires tout seuls. Et que Jésus dit, attends pas d'être au bout de ta corde, de tes ressources, des capacités. Viens au tout début du problème. Je veux être là avec toi. J'ai de la compassion. Je le connais déjà, le problème, mais j'aimerais ça que tu m'en parles. Et le Père Céleste, c'est ce Père attentionné, si parfait. Vous savez, quand je suis devant cette situation-là, j'ai un choix à faire dans les situations difficiles. Continuer obstinément à tenter de trouver une solution seule, une solution strictement humaine, ou me tourner vers Dieu Tout-Puissant pour son aide et son intervention et lui laisser la place qui lui appartient dans ma vie. Je me rappelle ce qu'il a déjà fait dans le passé. Et là, ici, on se dit, bien, les gars, vous rappelez, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, tu sais, là, quand on était 5000 hommes, probablement 15 000 personnes, 25 000 personnes, puis il a nourri tout le monde, rappelez, là. On dirait qu'il ne s'en rappelle pas. Puis là, vous et moi, on se dit, ben voyons donc, j'aurais jamais oublié un miracle comme ça, hein? Right? Qui oublierait un miracle comme la première multiplication des pains? Voyons donc! Quelques mois plus tard, quand il pose la question, il n'y en a pas un qui dit, ah, mais ce n'est pas un problème pour toi, Jésus, là, tu te rappelles la multiplication? Il n'y en a pas un qui dit rien de ça. Puis on le voit dans les versets suivants. Ben voyons donc, oublier la multiplication des pains. T'as mangé de ce pain-là. Il y avait 5 petits pains cassés, puis tout le monde en a mangé. Soit qu'on a eu des vraiment petites portions, ou bien il a multiplié quelque chose d'incroyable. Ils l'ont goûté, ce pain-là, ils l'ont vu, ils ont été émerveillés. Il y avait 12 paniers qui restaient. 12 paniers! Imaginez, il y avait des restants. Puis on aime ça, les restants, hein? réchauffé, lunch du lendemain, à job, tout ça. On aime tout ça des restants en général. Même Jésus aime les restants. Il en fait des restants quand il fait des miracles. Il avait oublié. Il avait oublié. Incroyable. Évidemment, nous, on ne vit pas ça. Quand Dieu fait une intervention dans notre vie, on s'en rappelle tout le temps. Puis après ça, on se dit, « Ah, pas de problème, Seigneur, je sais. » Tu te rappelles, l'autre fois, tu avais fait ça, puis nous, on fait la même chose, là, n'est-ce pas? Non, nous autres aussi, on a des petites amnésies temporaires. On oublie les délivrances, les réponses aux prières, ses attentions facilement. Tout comme ses disciples, on est pareil. Hein? Jésus est gracieux, il ne leur rentre pas dedans. Il leur pose juste des questions pour leur montrer la situation et dans laquelle il veut se glorifier. Et vous savez, peut-être ce matin, tu es dans une situation difficile. Seigneur Jésus, il ne veut pas te submerger, te décourager. Il veut t'encourager quand tu as des problèmes qui te dépassent. Viens juste me voir. Je suis toujours là, je vais toujours prendre soin de toi. Je vais toujours entendre ta prière. Je ne vais peut-être pas répondre de la même façon que tu t'y attendais, dans le délai que tu pensais. Ce n'est pas une commande à l'auto, hein, quand même. Une commande à l'auto, tu as commandé, tu t'attends à avoir ça. Tu vas avoir des surprises quand même, mais tu as payé pour, tu l'as. Mais quand tu demandes quelque chose à papa va intervenir, mais ça ne veut pas dire qu'il va répondre toujours comme tu veux, dans le délai que tu veux. Mais il va écouter, puis il va interagir. On est là. Donc, une question ici pour faire grandir leur foi. La foule rassasiée par Jésus. Et quand j'ai lu l'histoire, ce qui m'a refrappé, évidemment, c'est quand on lit qu'il fut rassasié. Et vous comprendrez que c'est de là qu'est venu, évidemment, le mot satisfaction. Avec si peu, Jésus a fait tellement de choses, si grand. Et il est rassasié. Et il y a du surplus. Alors, là, quand il y a du surplus, là, j'ai capoté, j'ai souligné, j'ai cherché le mot surplus, abondance. Et non seulement il pourvoit, mais il est dans le surplus, le Seigneur. Il y a des restants. Tu sais, il ne fait pas sa fesse. Tout juste. Juste assez. Non, ça déborde. Toujours plus. Et Dieu, dans sa création, Dieu, dans sa générosité envers nous, et continuellement dans la surabondance. On le voit dans toutes sortes de manières. Je me rappelle une situation, une histoire qui nous est arrivée à Julie et moi, lorsqu'on a fait on a adopté nos enfants en 2012 puis 2014. La première, on s'est dit, bon, on va emprunter, on est capable, on ne va pas achaler personne avec nos affaires, nos projets, puis on a emprunté, on s'est endetté, on est capable tout seul. Hein? Mais là, quand on l'avait à cœur, au bout de 12 mois après, on disait, ouais, mais on voudrait adopter encore. Ah ben, chérie, on n'a pas d'argent, c'est fini, c'est à côté, là. On est au milieu de nos ressources. Fait que là, je peux pas craindre qu'on va s'arrêter pour ça, pour de l'argent. Ben oui, je suis comme ça, je suis arrêté avec l'argent. Mais là, on a prié, on a réfléchi là-dessus, et on a dit, ben écoute, on a à cœur de le faire, il faut le faire, mais ça veut dire qu'il faut voir que le Seigneur amène l'argent, parce qu'on n'en a pas. On est au bout de nos capacités. Et on a expérimenté Dieu en partageant aussi ce qu'on vivait. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous nous ont aidés. Mais le Seigneur est dans surabondance. Il a pourvu à nos besoins, etc. Mais pendant que j'étais parti dans le deuxième voyage en 2014 à Odessa, en Ukraine, ma femme a fait savoir qu'il y a un monsieur qui est venu de Bell, Canada. Oui, de Bell, c'est ça. Puis, ils veulent passer la fibre optique dans le quartier. Puis là, ils voulaient demander si on pouvait passer sur notre terrain. Ben non, j'ai un petit terrain de 7000 pieds carrés. Tu ne passeras pas sur mon terrain de même. Puis que là, vous gardez un 5% pour vous autres de bande de... Tu sais, no way, là, c'est mon terrain. Ben là, j'ai dit de t'appeler, chérie. Là, même qu'ils reviennent, là, ben, il parlera avec toi, là, puis tatatitatata. Fait que finalement, on a fini le voyage. Dieu a pourvu à nos besoins, n'est-ce pas? Il a tout pourvu. Les factures sont payées, etc. Et là... Il arrive ce monsieur-là qui finalement passe la fibre optique. Et lui, il est là pour négocier, pour réussir autant que possible à ne pas payer une scène en passant sur les terrains des gens, évidemment. Mais il sait très bien qu'il y a des terrains que les gens ne vont pas accepter puis qu'il n'y a pas le choix. Fait que là, il dit, ben écoute, pas grave, je veux passer chez l'autre voisin. Ben vas-y chez l'autre voisin, je ne me dérange pas, moi, là. Mais moi, j'ai 5000 pieds carrés, puis ton 500 pieds carrés que tu veux que je te donne, là, ben là, voyons donc, j'ai tout petit, puis là, je ne pourrais pas rien faire là-dessus, puis sur le bord de ma piscine, nanana. Fait que j'y fais savoir que je ne suis pas intéressé. Fait qu'évidemment, lui, il va négocier. Et vous savez quoi? Au bout du compte, Bell a commandité pour 6000 piastres notre voyage. Pas amen? C'est le Seigneur. Techniquement, on n'avait pas besoin de cet argent-là, là. Mais le Seigneur a amené Bell dans notre terrain pour passer un fil pour nous donner de l'argent. Et on a toujours, depuis ce temps-là, entre autres, le four, 2 étages, parce que là, à un moment donné, on manquait de place dans le four, là, fait qu'il fallait un four double. Là, ma femme a acheté ça pour la famille, pour nos besoins familiaux. Le Seigneur a pourvu à nos besoins, mais là, on était dans le surplus. Après que tout soit fait, il y en a encore, le Seigneur. Et vous savez, je l'oublie souvent. On l'oublie souvent. Et on doit se rappeler Dieu qui est dans le surplus dans ma vie. Puis où est-ce qu'il en a mis des surplus qui n'étaient pas obligés, qui n'étaient pas nécessaires? Puis il a juste été un papa qui était content de nous gâter. C'est pas beau, ça? On aime ça quand papa, à un moment, décide de nous gâter. Pas parce qu'on a fait quelque chose de bien ou qu'on l'a mérité. Et c'est ça. Mais il veut enseigner des choses dans la surabondance. C'est pas juste l'aube de même. Il veut aussi nous transmettre quelque chose sur lui, sur son cœur et sur notre relation avec lui. Vous savez, on lit ce verset dans Matthieu, chapitre 5, verset 6. « Heureux ceux qui ont faim, dans le sermon sur la montagne, qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. » Et tout à coup, le mot « rassasié » ici, il est appliqué encore, parce que le mot habituellement « rassasié » est lié au fait d'avoir mangé pleinement et que ton estomac est satisfait. C'est utilisé uniformément à travers le Nouveau Testament dans ce sens-là. Mais si on comprend dans les paroles de Jésus qu'il parle d'être rassasié et que c'est plus que la faim physique, que quelque chose de spirituel, qu'il y a un besoin, qu'il y a une quête profonde, que seulement lui peut combler et rassasier cette faim spirituelle, cette soif spirituelle. Et il va le dire également à la femme samaritaine. Il dira ceci, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et là, on comprend, OK, c'est pas juste du puits qui parle, c'est pas juste d'un lunch qui parle, il parle de quelque chose de spirituel, d'une bouffe et d'une eau spirituelle. C'était dans Jean 14 que je viens de vous citer ces paroles. Les Rolling Stones ont évidemment chanté une chanson bien connue. Je vous le chanterai pas. Pensez même pas, André. Je regardais, et il me disait, il va le chanter, il va le chanter. Non, je le chanterai pas. Hein? Moi, je sais que vous êtes déçus. « I can't get no satisfaction. Hein? » Puis là, quand vous l'entendez la loto, vous êtes tout seul, vous chantez fort, je le sais. Je le sais. Hein? Mais il n'arrive pas à avoir de satisfaction. On fait des concerts, nos compagnies de disques qui veulent en disquer, mais c'est jamais assez. Il en faut toujours plus, puis finalement, on fait tout ça, mais c'est jamais assez ce qu'on atteint, puis ce qu'on s'attend de nous, puis ce que nous, on veut atteindre. Puis j'en veux encore. « I can't get no satisfaction. And I try, and I try, and I try. J'essaie. » Mais j'arrive pas à trouver la satisfaction. Pourquoi? Jésus seul peut te satisfaire. C'est seul. Personne d'autre peut le faire. Et j'ai tombé sur un article intéressant sur l'Internet sur la question de cette question de satisfaction, un article chrétien. Et je veux juste vous lire un petit paragraphe que j'ai trouvé vraiment bien et qui, je crois, nous donne ici une piste importante du pourquoi on a de la misère avec ça. Il dit, une célèbre citation de Charles Spurgeon résume bien l'esprit humain. « Vous dites, en parlant d'être humain, si j'avais un peu plus, je serais satisfait. » Si j'avais un petit peu plus sur ma paye, si j'avais un peu plus de tonus, si je perdais un petit peu plus de poids, si j'avais un petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça, un petit peu plus de vacances, il y a toujours une quête pour un petit peu plus, continuellement. Vous vous trompez, dit-il. Si vous n'êtes pas satisfait avec ce que vous avez, vous ne serez pas davantage si vous en avez le double. En effet, le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens et de connaissances. Et j'ajoute ici connaissances parce qu'il y a une quête de connaissances aussi. Mais dans la capacité d'apprécier ce que nous avons déjà. Si tu n'es pas reconnaissant de ce que tu as déjà, si tu n'es pas en train de dire merci au Seigneur pour ce que tu as déjà, même si tu en as plus, tu ne l'apprécieras pas plus et tu ne seras pas plus dans la reconnaissance. L'article développe combien la gratitude est essentielle pour sentir la satisfaction de Dieu. Pourquoi? Car Pratiquer la gratitude nous apprend à distinguer nos besoins réels de nos envies de superflu. Je vais relire, OK? Pratiquer la gratitude nous apprend à distinguer entre nos besoins réels et nos envies superflues. Et on les mélange, les deux. Voilà peut-être ce matin une vérité pour toi à retenir et qui peut-être vole ta joie, te prive de satisfaction, te vole du bonheur dans ta vie. Parce qu'on oublie ce qu'on a. On n'apprécie pas pleinement ce qu'on a. En Jésus-Christ, tout comme l'abondance dans laquelle il nous place. Et j'aspire toujours à plus. Et remarquez bien ici, dans le récit qu'on va lire, le mot « souvenir » qui va apparaître dans pas long. Okay? Et c'est, je veux faire le lien ici avec le mot « souvenir ». Il ne se rappelait pas. Et Jésus veut le rappeler à leur souvenir. Sa délivrance passée, son miracle passé, son intervention passée. Ici, le pain est donné avec reconnaissance à Dieu. Il rendit grâce à Dieu et le rompit. Il bénit le poisson et il le partageait. Il reconnaît que tout ça ici vient de Dieu. Et il enseigne la foule d'où vient cela, du Père céleste, en toute générosité. Cette situation va devenir une opportunité de transformer le lieu en désert d'abondance et en expérience de satisfaction alors qu'il y avait de l'insatisfaction. Comment? Par la rencontre de Jésus, par la présence de Jésus, en brisant le pain dans une prière de reconnaissance à Dieu, tout simplement, par la foi en Dieu, lui laissant la place pour nous nourrir, pour nous émerveiller encore une fois. Un auteur dira, en brisant le pain, Jésus brisa l'obsession de la quantité suffisante et de l'abondance. Car sa présence, c'est ce qui est déterminant dans cette histoire. Quatrièmement, l'obstacle du cœur. On va lire les prochains versets maintenant pour terminer la deuxième moitié. Et regardez les deux derniers points. Le quatrième étant l'obstacle du cœur humain pour comprendre qui est Jésus. Je vous lis à partir du verset 11. Donc, ils vont traverser de l'autre côté. Le nom de la région ici ne nous dit absolument rien, mais on comprend ici par différents indicateurs qu'ils se retrouvent sur le côté maintenant, côté ouest, du côté juif de la mer. Et on dit, les pharisiens vinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Parce que rappelez-vous ici, si on est dans Marc, le chapitre 7 auparavant, quand il était dans cette région-là, il a confronté à propos des croyances religieuses des gens au chapitre 7. Et entre autres, il a parlé du cœur humain et comment ils sont superficiels, ils font des règles, mais ils passent à côté de l'essentiel et c'est pas ce qui touche. Ils ajoutent des règles et là, il avait rentré dedans les pharisiens. Fait que les pharisiens, quand ils reviennent de l'autre côté, ils l'attendent de pied ferme. Et ils sont ici pour ça. Pour discuter avec Jésus, pour lui tendre un piège. Et remarquez ici le motif. Et lui demandèrent un signe qui vienne du ciel. Nous autres, on vient de lire ça, on va dire, t'es sérieux, un signe, tu dois l'avoir entendu parler, là. Ça doit jaser partout autour de la Galilée, là. Il a fait déjà le miracle de la multiplication. Il arrive de l'autre côté, il l'a fait parmi les païens. Il revient, puis tu demandes un signe. Non, mais t'es aveugle? C'est quoi, tu comprends pas? Mais on le dira pas, OK? On l'a pensé. Mais on ne leur dira pas aux pharisiens. On est d'accord? On va continuer. Poussant un profond soupir, je pense que Jésus pensait pareil. Jésus dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? En vérité, je vous le déclare, il ne sera donné de signe à cette génération. Tu n'en auras pas d'autre. » Et les quittant, il remonta dans la barque et il partit pour l'autre rive. Dans la barque, il va d'un côté, il va de l'autre côté, il leur dit ça, il part dans la barque, il va un autre rive. Ici, le public de l'Évangile selon Marc, ce n'est pas le public juif. Tandis que dans le public juif de l'Évangile selon Matthieu, Jésus va ajouter ici le signe, entre autres, de Jonas. Il dit, c'est suffisant, juste le signe de Jonas est suffisant pour vous. Eux autres ont compris, puis ils ont répondu, puis se sont convertis. Vous autres, vous avez plein de signes, puis vous répondez pas, j'en ferai pas un autre, puis je ne suis pas une commande à l'auto. Ou ce que je fais des miracles comme que tu veux quand tu le demandes. Et eux autres étaient incrédules, ils le savaient, et leur but, ce n'était pas d'avoir un miracle pour se convertir, c'était simplement de le piéger. Et Jésus n'embarque pas là-dedans, il connaît leur motif, et il connaît la dureté de leur cœur. Et là, on continue l'histoire. Les disciples avaient oublié de prendre des pains et n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Alors là, Jésus en profite dans la barque avec eux autres. Alors, on a un moment intime ici, sur la barque, où Jésus va leur enseigner. Qu'est-ce que Jésus va leur parler? Il vient de voir les pharisiens, et leur faisant cette recommandation, « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. » OK, le levain, ce que tu mets pour faire gonfler la pâte, tout ça, évitez ça, okay, chez les pharisiens, puis Hérode. Bon. Ils se mirent à discuter entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Pourquoi discutez-vous? Parce que vous n'avez pas de pain. Vous ne saisissez pas encore et vous ne comprenez pas. Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas? Avez-vous pas le souvenir? C'est le mot ici, là. Rappelez-vous. Souvenez-vous. Il est là, il se dit là. Le même mot pour le repas du Seigneur aussi qu'on a pris ce matin. Un rappel. Ne vous souvenez-vous pas? De quoi, Jésus, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000, combien de paniers, plein de morceaux vous avez apporté? Et là, il dit, 12. Ben oui! Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 personnes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Et dire, 7! Excellent! Vous comprenez pas? Ça termine comme ça. Vous comprenez pas? Non. Là, il était largué complètement. Eux autres, ils étaient ses pains, ils parlent de levain, ils parlent du levain d'Hérode. Ah, ils doivent vouloir nous faire un reproche, dans le fond, qu'on ne l'a pas amené le pain. Puis dans le fond, c'est vrai, quand tu as des restants, tu ne le scrapes pas, hein, tu le traînes. Puis là, on l'a oublié ça là-bas. C'est d'autres de ça qu'ils parlent. Jésus, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Jésus est aussi découragé avec eux qu'il est avec eux autres. Il soupire. Voyons, quand est-ce qu'ils vont allumer? Et on remarque chez Jésus ici et chez les disciples une croissance ici de cette distanciation qu'ils ne comprennent pas. Bon, Jésus, ce n'est pas une surprise, mais en même temps, Jésus est humain. Il vient parfois un peu exaspéré de voir leur incompréhension devant des signes aussi évidents. Et aussi, c'est ce qu'on vit souvent nous-mêmes. Et là, on parle de la dureté de leur cœur. Et ici, évidemment, je vous donne la réponse immédiatement. On ne va pas tarder à regarder c'est quoi le levain puis garder plein de passages. Quand que Jésus parle du levain, il parle aussi, il l'utilise souvent d'une façon négative. Il est en train de dire ce qu'on vient mélanger à du bon et qui fait lever et qui contamine. Et il parle ici des faux enseignements de ceux qui suivent Hérode, des faux enseignements religieux de ceux qui suivent les pharisiens et qui sont confrontés. Et qu'est-ce que ces choses-là apportent dans la vie des gens? Les fausses croyances. Ça apporte un cœur endurci. Les fausses croyances qui empêchent de voir Jésus. Les fausses croyances qui nous amènent à ne pas demander l'aide de Jésus. Les fausses croyances qui amènent à douter de Jésus. Les fausses croyances qui amènent ces gens-là à ne pas reconnaître que Jésus, tout ce qu'il est en train de faire, c'est tous des signes de ce qu'on disait du Messie dans ses testaments. Les gens qui retrouvent la vue, qui nourrit, les gens sourds qui parlent, les gens muets qui parlent. C'est tous des signes que le Messie est là. Et Jésus va leur dire au chapitre 4, je vous parle en parabole parce que je veux que les gens qui n'ont pas le cœur sincère puis qui ne cherchent pas, ne puissent pas comprendre. Puis là, il dit pourquoi? Bien, ça accomplit les paroles de le livre d'Ésaïe, chapitre 6. Et là, il utilise la même chose maintenant pour parler de ses disciples, qui eux autres aussi ne comprennent pas encore. Et évidemment, les disciples vont se rappeler de tout ça après la mort de Jésus. Et l'Esprit Saint va les aider à revoir toutes ces choses-là et faire le lien avec tout ce que Jésus leur a enseigné. Pour l'instant, leur cœur est endurci. Il y a encore des fausses croyances sur Jésus. Il y a encore des contaminations de toutes sortes de pensées dans le monde qui endurcit le cœur pour comprendre, pour voir, pour entendre et saisir pleinement. Ici, l'image de l'endurcissement du cœur, qui est soulignée en passant au chapitre 6. Jésus va faire la même chose après qu'ils aient passé la multiplication des pains, qu'il va traverser la mer, Jésus va marcher sur les eaux, il va leur parler après. Vous n'avez pas compris? Et il souligne le fait qu'il y avait le cœur endurci. La même expression, et qui revient ici, que Marc souligne, et qui est unique à Marc également. L'image de l'endurcissement du cœur, ici, le mot utilisé, parle de recouvrir d'une peau épaisse, durcie, par le recouvrement d'une callosité, qui vient du mot de pierre, l'idée de pétrifier. Et métaphoriquement, bien, c'est de rendre le cœur dur, aigri, devenir dur, engourdi, terne, perdre le pouvoir de compréhension. Donc, si l'idée, c'est que vos cœurs se sont pétrifiés, se sont fossilisés de dureté, à ne pas saisir ici les vérités, parce que vous êtes aveuglés spirituellement par des mauvaises croyances qui est le levain des pharisiens, le levain des rois. Et on va en reparler dans quelques instants. C'est quoi? Et l'ingratitude d'oublier ce que je fais et de mes interventions. On lit dans le psaume 103. Écoutez bien ceci, le psaume 103, versets 1 et 2. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Comment est-ce qu'on bénit l'Éternel? C'est parce qu'on se rappelle tout ce qu'il fait. Et là, on déborde de reconnaissance. Et leur cœur, eux, est endurci par leur esprit et leurs yeux lents à comprendre, qui sont aveuglés et leurs oreilles qui sont sourdes. Jésus, Dieu, est capable de répondre à nos besoins. Mais devant les problèmes de peur qui sortent et les plaintes, nous sommes aveuglés. Et ici, il est en train de dire, prenez garde de ne pas tomber à vouloir des signes à la manière de Hérode, à la manière des pharisiens, alors que vous avez vu le signe des pains et que je suis le pain de vie. Et qu'il est avec eux et que c'est suffisant. Et qu'il est la réponse à tout cela, tout simplement. Je vous pose la question ce matin. Est-ce que notre cœur est endurci par des fausses croyances qu'on a? Des croyances religieuses qu'on a apprises des fois dans l'Église, mais qui ne sont pas ce que les Écritures enseignent. Des croyances religieuses contaminées par notre famille, par des amis autour de nous, par des prédicateurs, des enseignements sur YouTube qu'on passe plein de temps, et peut-être trop de temps à écouter, plutôt que de lire davantage notre Bible, et de laisser Dieu nous parler, plutôt que de laisser plein d'autres personnes nous parler, d'entendre toutes sortes de voix, des fois à l'excès. Et que c'est difficile de distinguer la voix de Dieu à travers tout ça, la voix de Jésus, parce qu'on entend tellement de voix, de gens qui parlent de Jésus, mais pas nécessairement toujours de la façon dont Job en parlait. Hein? Job a parlé de moi d'une manière affermie. Vous n'avez pas parlé de moi d'une manière affermie. Et il y a plein de gens qui nous parlent comme les amis de Job, d'une façon injuste, inappropriée, non précise sur Dieu. Et ça prend juste quelques affaires pour tranquillement endurcir notre cœur de mauvaises croyances qui nous rend insensibles à ce que Dieu fait dans notre vie, à oublier ce qu'il a déjà fait et à être dans cet état d'ingratitude et on devient aveugle à tout ce que Dieu fait. Te donnes-tu des excuses encore pour résister à reconnaître pleinement l'identité de Jésus? Peut-être ce matin, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, ce matin, par cette histoire, veut te le rappeler encore. Combien de signes il va te falloir encore? Pour que tu reconnaisses que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Messie envoyé, tant attendu, qu'il est le moyen d'être sauvé, qu'il est le sacrifice, l'agneau de Dieu, qu'il a toute cette identité-là comme Fils de Dieu, Dieu incarné en homme à Noël, né d'une vierge, capable de faire l'impossible pour l'être humain. Le crois-tu? Qu'est-ce que tu attends encore pour le croire et lui céder ta confiance complète et totale? Et dernièrement, finalement, la leçon de Jésus, « Je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. » Vous savez, ce miracle est significatif parce que Jésus, lorsqu'il est en Israël, il nous le dit ici dans ces versets que j'ai mentionnés dans ce point-là, il a laissé combien de paniers? Jésus, lorsqu'il est du côté d'Israël, avec les 5000, il laisse combien de paniers? 12. Il est avec qui de ce côté-là? Il est avec Israël. Ils sont combien de tribus? 12. Et quand il traverse de l'autre côté et qu'il pourvoit pour tous les besoins, combien qu'il reste de paniers? Ils sont combien de tribus de ce côté-là? Hein? 7. On comprend qu'ils étaient 7 tribus dans cette région de la Décapole. Et traditionnellement, les Juifs croyaient que les gens de cette région-là étaient les descendants et les restants de ceux qui avaient été poussés en Israël vers l'extérieur. Et donc, cette région-là avait été hellénisée par les Grecs. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est le Dieu qui pourvoit pour les 12 tribus d'Israël dans une surabondance, c'est le même Dieu aussi qui s'intéresse aux païens et les 7 tribus et qui pourvoit dans la surabondance également. C'est le même Dieu qui, depuis 2-3 chapitres, est allé par Jésus-Christ à Tyr, à Sidon, se montrer intéressé aux nations et qui revient en Israël et qui constate dans sa ville la dureté à Nazareth. Et que Jésus se tourne vers les nations. Il est en train ici d'enseigner son intérêt sur les nations qui étaient là dans l'Ancien Testament, mais dont les Juifs s'étaient détournés dans l'endurcissement de leur cœur, s'étaient centrés sur eux. Et Jésus ramène encore le cœur de Dieu qui est pour toutes les nations. Puis il dit, le Dieu qui pourvoit pour ceux qui ont de l'air religieux, pour ceux qui sont du peuple choisi, c'est le même Dieu qui pourvoit pour ceux que vous maudissez, que vous regardez comme des païens orques. Pour celui que tu pries pas pour celui que tu as de l'amertume contre celui qui t'a fait du mal, pour celui qui est ton voisin, qui voudrait bien t'éliminer encore aujourd'hui en Israël. N'est-ce pas? Mais je pourvois pour eux aussi. Le même Dieu, le même Créateur, a compassion pour toutes les nations. Et c'est lui qui pourvoit. Et sa manière de pourvoir est illimitée. Il est dans la surabondance. J'aimerais vous lire ici le psaume 107, verset 8, qui dit « Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés. Il a comblé de bien les affamés. » Voilà notre Seigneur. Voilà celui qui prend soin de nous. Et vous savez, juste avant ce miracle, Jésus a fait le miracle dans l'Évangile au chapitre 7, versets 31 à 37, d'un aveugle à Bethesda qui ne voyait pas. Et immédiatement après cette histoire, on va voir Jésus qui, lui, va tout à coup redonner la possibilité de parler à un homme qui ne pouvait plus parler. Immédiatement après cette histoire. Et malheureusement, c'est un peu deux histoires qui encadrent l'histoire pour montrer comment que, effectivement, ils étaient aveugles spirituellement, ils étaient sourds spirituellement. Et la question, c'est, est-ce que nous, on l'est aussi? Est-ce que nous, on l'est aussi, endurci par un cœur pris dans toutes sortes de faux enseignements, de fausses conceptions sur Dieu, de conceptions religieuses et de distractions qui font que notre cœur devient pétrifié et qui oublie tous ses bienfaits, qui n'est plus dans un état de reconnaissance. Quand tu es dans l'état de reconnaissance, ton cœur se ramollit. Ton cœur déborde de remerciements à Dieu. Il dit merci. Il n'est pas en train de regarder à quoi ajouter dans ma collection de choses que j'ai. Parce qu'on en a des affaires en Amérique du Nord. On en a des bébelles. On en a des soucis parce qu'on a beaucoup de choses. Quand tu n'as pas grand-chose, tu as moins de soucis, mais tu te soucies de comment tu vas te nourrir. Chacun son défi. C'est notre défi. Et c'est un réel défi. Et ce que ça fait facilement en Amérique du Nord, c'est un cœur dur. Endurci, pétrifié par l'ingratitude, par les fausses croyances, par des choses qui nourrissent une mauvaise vision de Dieu. Alors que vous savez, même le Juif à ce moment-là pouvait lire ce verset-ci. Je vous lis Ésaïe, chapitre 35. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. » Ce que Jésus faisait montrait que le Messie était là. Dans ces textes messianiques où ce qu'on attendait son retour. Mais on ne le voyait pas. Et vous savez, en 2024, on a le même défi. Les gens ne voient pas que le Messie est venu, que le Messie a déjà ouvert le chemin pour aller au Père Céleste, que le pont a déjà été construit, le pont impossible pour réconcilier l'homme et Dieu parfait, Jésus. Et à Noël, on ne veut pas l'oublier. On ne veut pas juste raconter des histoires pour se sentir bien puis lire des passages, on veut se rappeler qui est Jésus et comment il est le seul à pouvoir nous satisfaire. Pourquoi il veut nous satisfaire? Mais pour les cinq raisons suivantes. Il est rempli de compassion de nos situations difficiles. Il ne se fout pas de nos situations. Et c'est pour ça que Jésus peut nous satisfaire. Il a de la compassion pour ce que tu vis. Et c'est le début de toute ta relation avec Dieu, sa compassion pour toi. C'est pour ça que tu peux être satisfait en lui. Il a compassion de toi. Deuxièmement, il est le seul à pouvoir recycler les situations difficiles pour permettre de le voir, lui, et vivre son intervention pour faire grandir ta foi. Ces questions, c'était pour embêter ses disciples, pour permettre une occasion de confronter leurs besoins de grandir et faire grandir dans cette endroit d'isolement, dans cet endroit où ce que leurs ressources étaient au bout de leur capacité pour se tourner vers les ressources illimitées de Dieu et qu'ils puissent vivre le superflu qu'il offre. Pourquoi Jésus est le seul à pouvoir satisfaire? Jésus est dans la business du surplus, dans une mentalité d'abondance et pas juste dans le strict minimum. Là, allez pas prier cette semaine. Seigneur, fais que Belle appelle chez nous. OK? Vous n'avez pas compris. Hein? Ma bénédiction n'est pas votre bénédiction. On a chacun nos bénédictions. Et Dieu ne veut pas qu'on commande à l'auto avec « Ah, je peux-tu avoir sa bénédiction à lui? » Puis avoir là. Non, non. Rappelez-vous, on est dans la surabondance. Qu'est-ce qu'on fait? On est heureux de ce que Dieu a fait. Ça nous encourage à voir comment Dieu a répondu pour dire « Je peux demander à Dieu, puis je vais lui faire confiance sur comment il va intervenir dans ma vie. Puis il n'y a pas besoin d'envoyer Belle pour passer la fibre optique sur mon terrain. » Amen. Il peut le faire d'une façon toute nouvelle encore, qui m'émerveille, pour pas que je mette ma foi dans un moyen, dans une méthode, dans un signe, mais en celui qui pourvoit et qui a toutes les ressources. Amen? Non dans les choses et les moyens, mais dans le pourvoyeur lui-même, celui qui a toute puissance. Et la ligne est mince des fois, où ce qu'on confie dans des choses pour y arriver, dans une méthode plutôt que dans le Dieu qui, lui, est l'objet de ma foi et mérite toute ma confiance. Pourquoi Jésus seul peut te satisfaire? Parce qu'il est le seul à pouvoir guérir un cœur endurci. Durci par la vie, par les épreuves, durci par les fausses croyances religieuses, par les fausses croyances sur Dieu, et qui peut te permettre de vivre la reconnaissance et de ramollir ton cœur, à tomber dans le merci Seigneur, dans l'appréciation de ce que tu as, et dans, plus dans le « ouais, mais j'aurais besoin de tout plus ». Nos prières sont-elles plus dans demander des choses de plus à Dieu ou sont des prières de reconnaissance avant tout? Et si nos prières sont accentuées sur la reconnaissance, cette reconnaissance va nous guider à quoi demander à Dieu. Mais souvent, on saute tout de suite aux demandes à Dieu. Parce que dans le fond, on n'a pas assez de choses pour lesquelles on est reconnaissant dans notre cœur. Et mon but, ce n'est pas de vous culpabiliser. On a tout ce défi-là. Et le Seigneur, s'il veut réchauffer nos cœurs, ce n'est pas les culpabiliser, il veut qu'on comprenne et qu'on puisse être libéré et vivre un ramollissement d'un cœur qui s'endurcit si facilement. J'aimerais vous dire ce matin, le Seigneur t'écoute. Il aimerait s'entendre ta prière et lui demander. Et cinquièmement et finalement, pourquoi Jésus seul peut se satisfaire? J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher. Car il est celui qui pourvoit à tous tes besoins, présents et futurs. C'est lui qui pourvoit. Le Dieu à qui on demande les choses et qu'on loue, c'est le Dieu qui multiplie les pains et les poissons dans l'Évangile. Mais vous savez pourquoi il multiplie les pains et les poissons? Écoutez bien. C'est parce que les disciples marchent avec le pain de vie. Et les disciples marchent avec l'eau de vie. C'est Jésus. C'est pour ça que ça découle de lui. Regardons pas qu'est-ce qu'il pourvoit. Regardons au pourvoyeur qui a des ressources illimitées. Ayons les yeux sur lui, émerveillés de lui encore une fois. Fiers de lui en cette saison des fêtes, non, de cette saison de Noël, de la nativité. Parce que nous, on sait pourquoi il y a un party à Noël. C'est parce que Jésus est né. Sinon, il n'y en a pas de party, il n'y a pas de sens et il n'y a pas de réjouissance si Jésus n'est pas né à Noël d'une naissance miraculeuse qui vient tout changer la donne. C'est pour ça qu'on est en 2024, après Jésus-Christ. Et on n'est pas à l'ère commune. Amen? Prions le Seigneur. Père Céleste, oh, fortifie nos cœurs, s'il vous plaît. Fortifie nos cœurs et ramollis nos cœurs parce que tellement de choses autour de nous sollicitent, nous retiennent, nous endurcissent, nous inquiètent. Et c'est dur, Seigneur, de garder ce cœur toujours sensible à toi, ramolli. Le mien a besoin d'être continuellement réchauffé en ta présence pour que toute cette pâte dure autour, ce gras qui fige soit réchauffé pour qu'il recommence à battre, pour qu'il recommence à avoir de l'aisance, à reprendre du souffle et que tout le corps puisse recevoir le sang qui est pompé dans tous les coins de notre corps pour qu'il fonctionne au maximum. Mais Seigneur, au-delà de notre cœur physique, il y a un cœur spirituel tout autant, dans la même image, qui a besoin d'une bonne circulation sanguine de foi. Merci au Père Céleste d'être notre pain de vie, d'être l'eau de vie, qu'on peut regarder à toi. Merci d'avoir dans le passé si souvent intervenu en ma faveur, d'avoir été dans la surabondance. Aide-moi à le voir. Rappelle-moi-le, Seigneur. Aide-moi à faire une liste. Aide-moi à être dans la reconnaissance continuellement pour demeurer émerveillé, d'être le petit gars qui regarde papa, qui regarde ses parents, puis qui se rappelle tout ce qu'il a fait pour lui, et qu'on ne soit pas l'adolescent ingrat, si facilement occupé par tout ce que je voudrais avoir que je n'ai pas. Mais on est facilement, Seigneur. Je suis facilement cet adolescent ingrat. Aide nos cœurs à se réchauffer en ta présence. Guéris. Réchauffe. Et pour celui ou celle ce matin qui n'a pas encore reçu, Seigneur, ton cadeau de la vie éternelle, qui n'a pas encore reçu ton offre du pardon par Jésus, qu'il se repente ce matin et qu'un jour nouveau puisse se lever en ce moment présent. Qu'il y ait conversion, un changement de pensée qui produit un changement de comportement parce que Jésus est entré par la nouvelle naissance spirituelle. Que lui ou elle puisse croire aujourd'hui et que tout puisse changer. Et Seigneur, je te prie pour ces cœurs qui combattent, qui résistent ce message de ta parole. Et je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.